Alors, on va lire le texte dans quelques instants, hein, mais d'abord, je vais vous proposer une petite devinette. Qu'est-ce que vous pensez que vos amis non-croyants répondraient si vous leur demandiez quelle est, de nos jours, l'institution la plus ringarde, ennuyeuse, rabat-joie, intolérante, réactionnaire, obscurantiste et manipulatrice qui soit? Je pense que l'Église chrétienne figurerait en bonne position, dans, pour ne pas dire peut-être la première place, hein, en première place. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre que l'Église chrétienne de nos jours n'est pas en odeur de sainteté, si j'ose l'expression? Je crois que j'ai jamais rencontré un non-croyant qui m'a dit « L'Église chrétienne, mais ça a l'air trop génial! J'ai trop envie d'en faire partie !» Non, l'Église chrétienne est plus souvent un objet de mépris qu'autre chose, hein. Un objet de critique, parfois dédaigneuse, parfois plus acerbe, voire même un objet de persécution, on le sait, hein, dans un nombre croissant de pays aujourd'hui. Alors dimanche dernier, à Nancy, une manifestation a été organisée à l'occasion de la journée de la femme, et le cortège qui défilait dans le centre-ville s'est arrêté exprès devant une église catholique à l'heure de la sortie de la messe, pour scander des insultes et des blasphèmes à l'encontre des paroissiens, parmi lesquels, évidemment, il y avait des enfants. Voilà donc, joignez-vous à l'Église chrétienne, c'est génial, si vous voulez qu'on vous regarde de travers, qu'on se moque de vous, et peut-être qu'on vous insulte. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes de ceux qui ont cette opinion très négative de l'Église chrétienne. On est très content que vous soyez là, hein, quand même, et on apprécie l'effort surhumain que vous avez dû fournir pour venir au culte aujourd'hui. Mais la plupart d'entre vous, en réalité, vous n'êtes pas hostiles à l'Église chrétienne. Vous êtes des croyants, mais n'empêche, faire partie de l'Église chrétienne, ça vous enthousiasme quand même pas, au fond. Justement parce que ça vous met dans le camp des ringards et des obscurantistes, aux yeux de beaucoup de gens. Mais peut-être aussi parce que vous n'avez pas l'impression que l'Église chrétienne a vraiment un avenir, surtout dans notre société. Et si on ajoute à ça la persécution que subissent, la persécution physique, hein, que subissent de plus en plus les chrétiens dans le monde, alors, disons-le, vous êtes peut-être tout à fait déçus et découragés, peut-être même que vous avez une sorte de désaffection, au fond, pour l'Église chrétienne, l'Église qui ne vous semble être, en fin de compte, qu'une communauté de losers, une communauté de miséreux, de victimes, dont vous faites malheureusement partie, parce que vous êtes croyant, vous êtes bien obligé, mais bon. Alors, c'est à ce genre d'idée que le texte qu'on va lire veut répondre. Il faut se rendre compte qu'au 1er siècle, au moment où ce texte en particulier a été écrit, il y a beaucoup de gens qui sont enclins à ressentir du mépris ou de la désaffection pour l'Église chrétienne, y compris parmi des gens qui se diraient croyants. Et la raison, c'est que beaucoup de gens pensaient, donc on est au 1er siècle, hein, beaucoup de gens pensaient que le Messie devait venir pour renverser la dictature romaine et accorder aux croyants une libération et un triomphe politique. Or, après la venue de Jésus, les croyants sont plus dispersés que jamais, plus persécutés que jamais. Et on n'a vraiment pas l'impression que ça va aller en s'arrangeant. Les gens sont déçus. Et donc l'auteur de ce texte veut corriger la perception négative que les gens de son époque ont de l'Église chrétienne. Et il veut les convaincre que les choses ne sont pas comme elles paraissent. Et la leçon de ce texte, qui vaut pour nous aujourd'hui, c'est la suivante. On dirait peut-être pas, mais ça vaut quand même vachement le coup de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. En effet, malgré les apparences, c'est ce qu'on va voir cet après-midi, malgré les apparences, l'Église chrétienne est une Église triomphante. Et l'auteur va nous parler successivement de la nature de ce triomphe, du moyen de ce triomphe, et enfin de la certitude de ce triomphe. Alors, lisons le texte, hein, il s'agit de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Un passage que plusieurs parmi vous allaient sans doute reconnaître, puisque certains de ces versets sont assez connus. Je lis donc à partir du verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Excusez-moi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » J'arrête ici la lecture de la parole de Dieu, et avant d'aller plus loin, on va prier brièvement. Seigneur, merci infiniment pour ta parole, pour ces textes que tu as inspirés, qui sont utiles pour nous, pour notre édification dans la foi. Et Seigneur, nous te demandons maintenant l'aide de ton Saint-Esprit, pour bien comprendre ce que tu veux nous dire, et surtout pour le mettre en pratique. Amen. On dirait peut-être pas, mais ça vaut quand même vachement le coup de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est la leçon du texte, me semble-t-il. La première chose que le texte veut nous faire comprendre, versets 13 à 19, c'est que d'après Jésus, l'Église chrétienne, c'est bien le peuple d'un royaume qui est plus fort que tout. Ce qui se passe dans le texte, c'est qu'un des disciples de Jésus, Pierre en l'occurrence, le disciple, Simon-Pierre, fait une profession de foi où il affirme, et le texte nous précise sous l'inspiration miraculeuse de Dieu, il affirme que Jésus est bien le Messie, c'est-à-dire l'envoyé unique de Dieu pour accomplir le salut des croyants. Alors il faut bien se dire que le lecteur attentif du récit, pour lui, c'est pas une découverte ça. En fait, on sait que Jésus est le Messie depuis les tout premiers paragraphes en fait, de l'Évangile selon Matthieu. Donc c'est pas une découverte, le fait que Jésus soit le Messie. Mais ensuite, Jésus dit qu'il va se constituer un peuple basé sur la reconnaissance de son identité en tant que Messie. Et pour la première fois, au verset 18, il appelle ce peuple l'Église. En fait, c'est pas foncièrement nouveau non plus. Hein. Tous les gens qui attendaient le Messie s'attendaient aussi à ce que le Messie devienne le chef d'un peuple réuni autour de sa personne. Quoi de plus normal que Jésus dise qu'il va donc bâtir son Église. Et Église, ça veut dire une assemblée de personnes. Donc, quoi de plus normal que Jésus dise qu'il va bâtir son peuple, cette Église qui est la sienne. Ce qui est vraiment nouveau dans le texte ici, c'est ce qui suit après. Lorsque Jésus dit que ce peuple sera plus fort que les portes du séjour des morts, et lorsqu'il ajoute ensuite qu'il va confier à Pierre des clés qui lui permettront de faire entrer des gens dans le royaume des cieux ou de leur fermer cet accès, et cela de manière définitive pour l'éternité. On est d'accord? Si vous découvrez ce texte pour la première fois, on est d'accord, c'est un peu bizarre. En fait, Jésus ici, il est en train de comparer la mort à une prison dont la porte est fermée à double tour. Ce que Jésus sous-entend, c'est que tout le monde finit dans cet endroit, hein. Et donc, quelle que soit notre richesse, notre puissance, notre savoir, notre identité, notre allégeance, notre nationalité, hein, juif ou romain, grec ou barbare, empereur ou serviteur, tout le monde finit par mourir. D'ailleurs, personne n'aurait contesté ce fait à Jésus. Tout le monde finit par mourir. Tout le monde finit dans cette prison qui, en quelque sorte, annule ou réduit à rien tout ce qu'on a pu être ou faire ici-bas, c'est-à-dire pendant notre vie sur Terre, avant de mourir. C'est la destination commune de tout le monde, cette prison dont la porte est fermée à double tour, le séjour des morts. C'est toujours la mort qui a le dernier mot. Sauf que, chose inouïe, inédite, incroyable, les portes de cette prison, d'après Jésus, ne seront pas plus fortes que son Église, que l'Église chrétienne. L'Église chrétienne sera plus forte que ce qui normalement est plus fort que tout, à savoir la mort. Vous suivez? Non seulement cela, mais en plus, par une deuxième métaphore que Jésus ajoute juste après, d'ailleurs qui ne s'éloigne pas beaucoup de la première, Jésus dit qu'il va confier à l'autorité de l'Église, l'autorité qui ici est personnifiée par l'apôtre Pierre, il dit qu'il va confier à l'autorité de l'Église une fonction qui, lorsqu'elle sera exercée, produira, tenez-vous bien, un effet éternel sur les gens. C'est-à-dire un effet qui ne sera pas limité par la mort. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Un effet qui n'est pas limité par la mort. Non pas que ce pouvoir de lier ou de délier ici réside en l'Église elle-même. J'ai dit qu'il confiait une fonction à l'autorité de l'Église, qui est ici personnifiée par l'apôtre Pierre. Mais d'après la Bible, c'est la parole de Dieu, par son efficacité, qui produit cet effet éternel quand elle est prêchée par, ben justement, ceux qui ont l'autorité en l'Église, les responsables de l'Église, les pasteurs, les prédicateurs, les docteurs, pour reprendre des expressions du Nouveau Testament. Lorsqu'elle est prêchée par les responsables de l'Église et lorsqu'elle est appliquée, notamment, par le moyen de la discipline de l'Église, donc toujours sous l'autorité de l'Église. Ce n'est pas un pouvoir qui réside dans l'Église elle-même, c'est le pouvoir ou l'efficacité de la parole de Dieu qui est confiée à l'Église pour que l'autorité de l'Église la proclame et l'applique. C'est un peu comme quand des policiers appliquent la loi en arrêtant des méchants et en protégeant des gentils. Les policiers n'ont pas le pouvoir en eux de produire des méchants ou de produire des gentils. Ils n'ont pas non plus le pouvoir en eux de décider de ce qu'est la loi, de décréter la loi, n'est-ce pas ? Mais par leur application de la loi, et c'est leur fonction en tant qu'autorité, eh bien, par leur application de la loi, des gens se retrouvent en prison et d'autres peuvent vivre en sécurité. Eh bien, c'est un peu comme ça quand l'autorité de l'Église s'occupe de proclamer et d'appliquer la parole de Dieu qui, elle, est puissante et efficace, pour produire donc des effets qui ne sont pas limités par la mort. Donc c'est un peu bizarre ce que dit Jésus, a priori, mais au fond, c'est pas si compliqué, hein. Tout ce que ce passage veut dire, c'est que d'après Jésus, l'Église chrétienne, c'est bien le peuple d'un royaume qui est plus fort que tout. C'est le peuple du royaume des cieux, réuni autour de sa personne en tant que Messie. Ok, bon, ça on le savait, c'est pas nouveau, mais c'est le seul, voilà ce qui est nouveau, c'est ce que je disais, c'est le seul peuple qui ne sera pas vaincu par la mort. Et non seulement cela, mais en plus, ce peuple a une vocation conquérante, c'est-à-dire que l'Église, d'après Jésus, va aller activement au-devant des gens pour les libérer de la tyrannie de la mort. C'est un peu comme si le monde entier avait été contaminé par un terrible virus, d'accord ? Aucun moyen d'y échapper, qu'on soit riche ou pauvre, noir ou blanc, puissant ou faible, européen, africain, australien ou que sais-je encore, aucune discrimination, personne ne peut échapper à ce terrible virus qui a contaminé la terre entière. Tout le monde doit y passer, c'est inéluctable, c'est inévitable, irrémédiable, sauf que il existe un certain territoire, dans le nord du Royaume-Uni, un pays modeste et discret qui est le seul endroit inatteignable par le virus. Non seulement cela, mais en plus, dans ce pays, on a l'antidote et les autorités du pays s'organisent pour administrer cet antidote aux habitants du reste du monde qui veulent bien le recevoir. Voilà, l'Église chrétienne est un petit peu comme ça dans ce passage, en tout cas d'après Jésus. C'est comme ça qu'il décrit l'Église, son Église. Et donc, en rappelant ce que Jésus a dit concernant l'Église, l'auteur de ce texte, dans ce passage, est en train de corriger déjà, vous voyez, l'idée selon laquelle l'Église chrétienne, c'est un peuple de perdants. Non, d'après Jésus, en tout cas, l'Église est plus forte que ce qui est plus fort que tout, à savoir la mort. Non seulement la mort ne l'emporte pas sur l'Église, mais en plus, l'Église l'emporte sur la mort. Et on verra dans un petit moment ce que ça veut dire plus précisément, parce que le texte n'est pas en train de dire que les gens qui font partie de l'Église ne vont pas mourir. C'est pas ça que dit le texte. Mais pour l'instant, retenons au moins cette idée. L'Église chrétienne est une Église triomphante, en tout cas théoriquement d'après Jésus. Ça semble assez clair ce qu'il dit ici. La nature de son triomphe, la nature de triomphe de l'Église, c'est qu'elle est plus forte que ce qui normalement est plus fort que tout, à savoir la mort. Elle est plus forte que la mort, l'Église. Le peuple que Jésus va constituer autour de sa personne en tant que Messie, c'est le seul peuple que la mort ne fera pas disparaître. Et en fait, cette réalité est conforme aux promesses que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament, depuis très très longtemps, de nombreux siècles, concernant le royaume du Messie à venir. Un royaume conquérant, un royaume éternel, un royaume qui n'aurait pas de fin. Voilà ce que Dieu avait annoncé d'avance. Voilà ce que Jésus est venu réaliser. Mais on n'a pas l'impression, après 2000 ans d'existence, que l'Église chrétienne soit vraiment si forte que ça. Il est où ce royaume suprême et glorieux que Dieu le Père, puis Dieu le Fils ont annoncé? Il est où? L'Église a plutôt l'air d'être une victime qu'une conquérante, n'est-ce pas? Les chrétiens sont sur la défensive, ils sont persécutés, et en plus, la mort semble toujours avoir le dernier mot. Ben regardons la suite du passage. Et en effet, la deuxième chose que ce texte veut nous faire comprendre, versets 20 à 23 maintenant, c'est que le triomphe de l'Église chrétienne a bien été gagné et scellé, mais peut-être pas par le moyen qu'on aurait imaginé. Il se passe quelque chose de curieux dans le texte. Jésus interdit, au verset 20, il interdit à ses disciples de faire savoir aux gens qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie. C'est un synonyme. Christ et Messie, ce sont des synonymes. La raison, on la découvre au verset suivant, où Jésus explique à ses disciples, pour la première fois dans le récit, selon Matthieu en tout cas, dans cet évangile, il explique que sa mission en tant que Messie va consister, suspense, à souffrir, et à mourir, et à ressusciter. Ce qui est sous-entendu, c'est que c'est seulement une fois que cette mission sera accomplie, que les disciples devront alors annoncer aux gens que Jésus est le Messie. Jésus, vous voyez, il ne veut pas que les gens se méprennent sur la nature de sa mission en tant que Messie. Or, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens à cette époque pensent que le Messie doit venir, pourquoi ? Pour renverser la dictature romaine et pour accorder aux croyants de cette époque une libération politique. Et donc Jésus, il veut vraiment que ses disciples attendent qu'il ait souffert, qu'il soit mort, et qu'il soit ressuscité pour ensuite annoncer aux gens qu'il est le Messie. Comme ça, les gens pourront voir quelles sont la vraie nature et le vrai moyen de son triomphe au profit de son peuple, au profit de son Église. Mais vous avez vu la réaction de Pierre à l'annonce des souffrances à venir de Jésus, au verset 22, vous avez vu sa réaction? Il n'est pas du tout d'accord. Il n'est pas du tout d'accord, l'apôtre Pierre. Pourquoi? Mais parce que justement, Pierre fait partie des gens à ce moment-là qui ne pensent pas du tout que le Messie doit souffrir et mourir. Mais lui, au contraire, il pense que le Messie doit lever une armée et gagner des batailles militaires, remporter des victoires et, en fin de compte, chasser les païens de la Terre Sainte. C'est ça qu'il veut, Pierre. Il veut surtout pas que le Messie souffre et meure. Et c'est assez ironique, hein, ce qui se passe après. Ce Simon-Pierre, fils de Jonas, à qui Dieu vient tout juste d'inspirer la belle profession de foi qu'il a faite concernant l'identité de Jésus en tant que Messie, ce Pierre n'a maintenant plus du tout, d'après le texte, les pensées de Dieu. Maintenant, il a les pensées des hommes. Il est même appelé Satan, tellement Pierre se trompe, tellement il se fourvoie concernant la mission de Jésus en tant que Messie. Il avait vu juste sous l'inspiration miraculeuse de Dieu, il avait vu juste concernant l'identité de Jésus, mais il se trompe complètement concernant la mission de Jésus en tant que Messie. Et la véhémence de Jésus en réponse à l'objection de Pierre sert à souligner le caractère absolument inacceptable de l'idée que Pierre met en avant ici, à savoir que le triomphe de l'Église, peuple du royaume des cieux, pourrait venir indépendamment des souffrances de Jésus. Pour Jésus, c'est inacceptable, cette idée selon laquelle le triomphe de l'Église pourrait venir indépendamment des souffrances de Jésus. Les souffrances et la mort de Jésus, ici, dans ce texte, elles nous sont présentées comme n'étant pas venues accidentellement, mais comme étant venues exprès. C'est venu exprès, c'était ça le moyen de son triomphe, c'était ça sa mission. Ce que le texte nous fait comprendre, donc, c'est que le triomphe de l'Église chrétienne a bien été gagné, scellé, garanti, si vous voulez, mais peut-être pas par le moyen qu'on aurait imaginé. C'est pas le moyen qu'aurait imaginé l'apôtre Pierre, en tout cas. Ce triomphe a été gagné et scellé par les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. Et le texte insiste ici sur le fait que c'est le moyen exclusif, le seul moyen du triomphe du Messie au profit de son Église, au profit de l'Église chrétienne. L'auteur qui nous rapporte cette histoire ne veut surtout pas qu'on se trompe sur la mission de Jésus au profit des croyants. Et si on se trompe sur la mission de Jésus au profit des croyants, si on se trompe sur le moyen du triomphe de l'Église, alors on se trompe sur le chemin aussi qui nous ferait entrer dans ce royaume. Il y a un chemin, c'est un chemin inattendu, mais c'est le seul chemin possible. Vous savez, parfois, quand on suit les indications d'un GPS, quand on les suit de manière naïve et candide, on se retrouve parfois sur une vieille piste impraticable, les roues coincées dans des ornières. Ou alors on se retrouve des fois au fond d'une impasse, au milieu de nulle part. Des fois on se retrouve au beau milieu d'un champ où le GPS pensait qu'il y avait une route, mais il n'y a pas de route. Parfois le GPS, vous voyez, c'est pas une bonne idée. Parfois il n'y a qu'un seul chemin possible vers notre destination, et pour nous y conduire, mieux vaut les indications de quelqu'un qui connaît le coin plutôt que les indications du GPS. Vous avez tous vu peut-être ce sketch de Gad Elmaleh, du GPS marocain, qui lui dit à un moment donné d'arrêter la voiture, d'ouvrir la fenêtre et de demander à un passant où est la bonne rue. Ben voilà, les GPS ne sont pas infaillibles. Hein. Et ici, dans le texte, l'auteur veut que nous nous fions aux indications de Dieu, aux pensées de Dieu et pas aux pensées des hommes, vous voyez. Il veut que nous nous fions aux indications de Dieu qui nous montrent clairement quelle est l'œuvre étonnante de Jésus en notre faveur et qui nous est décrite ici dans ce texte. Pour que son Église triomphe, il a souffert. Il est mort et il est ressuscité. Et il y a une raison pour laquelle ce chemin est le seul bon chemin. C'est parce que la libération dont les hommes ont besoin, ce n'est pas une libération politique. C'est bien plus que ça. On a peut-être besoin d'une libération politique, mais on a besoin de bien plus encore qu'une libération politique. C'est une libération spirituelle que celle dont les hommes ont besoin. D'après la Bible, la mort est entrée dans le monde à cause du péché des hommes. Les hommes sont séparés de Dieu par leur propre faute. Et la tyrannie exercée sur eux par le péché et par la mort est bien pire que la tyrannie d'une dictature politique. Libérer les hommes d'une dictature politique, c'est bien. C'est bien. Mais en fin de compte, ça ne réconcilie personne avec Dieu et ça ne libère personne du séjour des morts. À la fin, ceux qui sont tyrannisés et ceux qui tyrannisent se retrouvent dans la même prison, fermée à double tour, le séjour des morts. Donc c'est bien d'être libéré politiquement, mais ça ne résout rien pour ce qui concerne notre relation avec Dieu et la prison de la mort vers laquelle nous nous dirigeons. Jésus, pour offrir la vraie libération aux croyants, pour faire triompher son Église sur le péché et sur la mort, il a accepté de souffrir les conséquences des péchés, des péchés des croyants à leur place. Il s'est substitué aux croyants, mais c'est exactement la raison de ses souffrances et de sa mort en tant que Messie. Il est venu pour payer la dette des croyants à leur place, la dette morale que les croyants devaient à Dieu en raison de leurs péchés, en raison de leurs fautes. En raison du fait qu'ils ont voulu vivre dans l'autonomie vis-à-vis de Dieu, en raison du fait qu'ils ont voulu tourner le dos à Dieu et vivre tout seul, indépendamment de lui. Mais le prix à payer est lourd, mais Jésus a voulu payer ce prix à la place des croyants, à la place de ceux qui lui font confiance. Il s'est substitué donc aux croyants et c'est précisément la raison de ses souffrances et de sa mort. Mais ayant souffert et étant mort pour les croyants, Jésus est aussi ressuscité pour eux. Et c'est comme ça que Jésus a fait en sorte que l'Église soit le peuple d'un royaume qui est plus fort que tout. Les croyants meurent quand même, mais la mort ne l'emporte pas sur eux, parce que Jésus, par sa propre résurrection, a garanti la future résurrection des croyants et la future destruction de la mort. Qu'est-ce que ça change à notre vie présente ? Ben regardons la suite et la fin du texte. D'accord ? Versets 24 à 28 maintenant. La troisième et dernière chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que les circonstances de notre vie présente doivent être relativisées par rapport au règne de Jésus qui a été clairement établi. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du verset 24, je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux, Jésus semble tirer des applications des choses qu'il a dites juste avant. Et ce qu'il dit globalement, c'est que c'est certainement contre-intuitif de suivre Jésus. Dans la mesure contre-intuitif, c'est-à-dire que ça ne nous vient pas naturellement. Ça ne nous paraît pas logique a priori, ça ne nous paraît pas bien a priori, avantageux a priori. Dans la mesure où la victoire que Jésus acquiert pour les croyants n'est pas matérielle et temporelle, mais spirituel et éternel. Autrement dit, quand on suit Jésus et qu'on se joint à son Église, ça ne présente pas des avantages immédiats. Ça ne présente pas des avantages immédiats, des avantages matériels ou temporels. Parfois même, suivre Jésus et se joindre à son Église, ça entraîne des difficultés et des souffrances. Mais ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même le coup. Et c'est ce que Jésus veut qu'on retienne ici. Parce que ce que Jésus offre, c'est la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. C'est le salut de l'âme, comme il le dit au verset 26. Ça vaut le coup, non? Parce que le salut de l'âme, ça vaut bien mieux que tout le confort du monde ici-bas. Et Jésus ajoute ensuite deux arguments pour finir de convaincre son auditoire qu'il vaut mieux le suivre et souffrir que ne pas le suivre et vivre tranquillement. Il vaut mieux le suivre et souffrir que ne pas le suivre et vivre tranquille ou tranquillement. Le premier argument, verset 27, c'est le fait qu'un jour l'histoire prendra fin. Et le monde entier, d'après Jésus, sera jugé. Le but de ce jugement sera de purger le monde de tout ce qui est mauvais, pour en faire un monde complètement renouvelé, où la mort, comme je le disais, aura été définitivement détruite, et où les croyants ressuscités pourront vivre éternellement en présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et Jésus est en train de dire qu'à la lumière de ce jugement à venir, à la fin de l'histoire, qui va venir, on ne sait pas quand exactement, mais ça viendra à la fin de l'histoire, eh bien il vaut mieux, d'après Jésus, être dans le bon camp. Vous me direz, c'est logique, non? Il vaut mieux être dans le bon camp, à la lumière de ce jugement à venir, même si ça implique, pour l'instant, une vie plus difficile. Mais en fin de compte, il vaut quand même mieux être dans le bon camp. Le deuxième argument qu'il invoque, c'est le fait, verset 28, que Jésus, au moment où il parle dans ce texte, il dit qu'il s'apprête à manifester de manière indéniable l'établissement de son règne. Il dit que certaines personnes qui sont présentes au moment où il s'exprime là, verront de leurs yeux, avant de mourir, l'établissement du règne du Messie. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont là, quelques-uns parmi son auditoire, pourront être sûrs que Jésus est bien le Messie, qu'il a parfaitement accompli sa mission au profit de son peuple. Parce qu'ils verront de manière indéniable l'établissement du règne du Messie. Tiens. Et par conséquent, ils pourront donc avoir la certitude, vous voyez, du triomphe de l'Église. Alors à quoi Jésus est-ce qu'il fait référence là? À quoi Jésus fait-il référence ici? Il fait référence aux événements qui vont suivre ses souffrances et sa mort. À savoir, premièrement, sa résurrection victorieuse. Ensuite, son ascension triomphale auprès du Père dans le ciel qui s'est produite devant des témoins. Et on sait qu'après être monté auprès du Père, il s'est assis sur un trône à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute la création, pour régner sur toute la création du Père. C'est un règne qui s'exerce depuis le ciel, mais c'est un règne réel, néanmoins. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après, d'après le reste de la Bible? Ensuite, Jésus a déversé son esprit sur ses disciples, réunis en église le jour de la Pentecôte. On découvre ce récit dans le livre des Actes. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La foi chrétienne s'est propagée de façon assez rapide dans tous les recoins de l'Empire romain. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le temple de Jérusalem a été détruit de manière spectaculaire en l'an 70, alors que des gens qui ont entendu Jésus parler étaient encore vivants et ils ont vu de leurs yeux le temple de Jérusalem être détruit spectaculairement. Et ce qui a marqué de manière solennelle et indéniable, la fin de l'époque de l'Ancien Testament, la fin de l'époque de l'attente de la venue du Messie. Cette période est définitivement, solennellement révolue. Et tout le monde en a un signe indéniable, un signe spectaculaire, par non seulement la résurrection de Jésus, son ascension auprès du Père, le déversement de son esprit sur l'Église, la propagation de la foi chrétienne dans l'Empire romain, mais enfin, en l'an 70, la destruction du temple des Juifs. Oui, Jésus est le Messie. Oui, il est venu. Oui, il a souffert, il est mort, il a triomphé, il règne maintenant. Et même si c'est dur ici-bas de faire partie de son Église, il vaut mieux ça que perdre son âme. Les circonstances de notre vie présente doivent être relativisées par rapport au règne de Jésus qui a été clairement établi. Et le texte ici nous incite évidemment à bien choisir notre allégeance. Se joindre à Jésus ou ne pas se joindre à Jésus? Mon cœur balance, telle est la question. Mais en fait, la réponse devrait couler de source, n'est-ce pas? La réponse devrait couler de source. Ça me fait penser un peu à un joueur de l'Olympique Lyonnais, dont on a pas mal parlé ces derniers temps dans le milieu sportif. Alors, si vous ne suivez pas, vous ne saurez pas du tout de quoi je parle, mais je vais vous expliquer. Il s'agit d'un joueur franco-algérien, qui avait lui aussi le choix entre deux allégeances. Il pouvait rejoindre l'équipe nationale de l'Algérie ou rejoindre l'équipe nationale de la France. Il avait la double nationalité. Il a la double nationalité. Il peut choisir l'une ou l'autre de ses allégeances en termes de sport. Sachant toutefois que son choix est ensuite irréversible. On ne peut pas jouer un petit peu pour l'équipe de l'Algérie, puis ensuite changer d'avis et revenir et jouer pour l'équipe de France. Alors il y aurait des avantages à choisir l'Algérie. Le joueur serait certainement incontournable dans l'équipe, il aurait un poste important, il jouerait souvent, il serait sous les feux de la rampe, pour ainsi dire. Mais voilà, il aurait quand même peu de chance avec l'équipe de l'Algérie de remporter un grand trophée un jour, un grand trophée international. Mais s'il rejoignait l'équipe de France, par contre, il y aurait tellement de concurrence dans l'équipe de France parmi les joueurs qu'il serait peut-être deuxième ou troisième remplaçant, vous voyez. Il ne jouerait pas beaucoup, il ne serait pas vu beaucoup, peut-être qu'il ne jouerait pas du tout. Et il rongerait son frein pendant longtemps sur le banc de touche. Ce serait frustrant pour lui, décevant. Mais au moins, il optimiserait ses chances de gagner un grand trophée. Par exemple, une Coupe du Monde. Alors, vous voyez, il serait donc logique que les circonstances de sa vie présente soient relativisées par rapport aux perspectives de victoire qui sont clairement mieux établies en ce qui concerne l'équipe de France. Alors, je ne sais pas quel choix a fait ce joueur. Il paraît qu'il a choisi l'équipe de France, mais c'est pas à 100% sûr, mais ce serait en tout cas un choix logique, n'est-ce pas? Mais moi, je sais en tout cas quelle allégeance vous et moi, on devrait choisir. Et je parle pas de foot, hein. La question ne devrait même pas se poser. Qu'est-ce qui pourrait se comparer à Jésus, franchement? Il a souffert à notre place. Il est mort. Il est ressuscité. Il siège à la droite de Dieu. Il a établi son règne suprême. Il va un jour juger le monde. Alors oui, l'Église chrétienne fait souvent l'objet du mépris des gens, de leurs critiques, de leurs moqueries, parfois de leurs insultes, de leurs persécutions. Mais parce que Jésus a souffert, parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité, les choses ne sont pas comme elles paraissent. On dirait peut-être pas, mais ça vaut quand même vachement le coup de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, qui est le peuple d'un royaume qui est plus fort que tout, en raison de l'œuvre de Jésus qui a triomphé de la mort. Et la certitude de ce triomphe, attestée dans l'histoire, doit relativiser nos circonstances présentes. Voilà en fait toute la leçon de ce passage. Venez, rejoignez Jésus et son Église. Tenez son Église en estime, valorisez-la, soutenez-la, prenez part à sa vocation, abreuvez-vous de ses enseignements, et soumettez-vous à son autorité, sachant que par le moyen de l'Église, des hommes, des femmes et des enfants sont délivrés pour l'éternité, déliés pour l'éternité des liens du péché et de la mort. Non pas sous l'effet d'un pouvoir propre à l'Église, comme je le disais tout à l'heure, mais par la puissance du Saint-Esprit et sous l'effet efficace de la parole de Dieu qui est dispensée dans et par l'Église chrétienne. Dans l'Église, vous êtes peut-être dans le camp des ringards et des obscurantistes, dans le camp des losers, des miséreux, des victimes, mais franchement, ça vaut quand même le coup. Amen. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour ce texte. Merci de nous avoir rappelé que le Messie, ton Fils, est venu, il a tout accompli. Il a établi son règne. Et nous sommes tout simplement invités à lui prêter allégeance, à le suivre, même si c'est difficile, sachant que ça vaut le coup à la fin. Seigneur, renouvelle, s'il te plaît, notre foi, notre enthousiasme, renouvelle notre motivation à suivre Jésus-Christ. Et fais-le dans notre vie à chacun, chaque jour, s'il te plaît. Amen.